France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
La galaxie d'Andromède, notre proche voisine, est au cœur des débats des astronomes, et plus exactement l'estimation de sa masse. Pourquoi ce casse-tête est-il si important ? Cette galaxie spirale barrée est située à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Visible à l'œil nu la nuit, elle est étudiée depuis des siècles. Mais il y a une grande incertitude sur sa masse. Selon une récente étude, elle serait bien plus faible que prévu, environ moitié moins que la dernière estimation. Sa quantité de matière ordinaire représente un tiers de sa masse totale. Problème, cela ne colle pas avec ce que l'on estime de la fraction de matière baryonique dans l'univers. Où est donc passée sa matière noire ? Il va falloir faire travailler sa matière grise. Galaxie d'Andromède, une perte de masse qui pèse. François Hammer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome du laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique de l'Observatoire de Paris et l'auteur de cette étude qui vient de paraître. Benoît Famé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre feed podcast sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Vous y trouverez des ressources complémentaires pour enrichir votre écoute, c'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment, grâce à l'observation, peut-on reconstituer l'histoire passée d'une galaxie ? Si nos mesures sont de plus en plus fines, pourquoi est-ce si difficile d'estimer la masse d'une galaxie et quelles sont les conséquences de cette étude et de cette découverte ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour. Andromède est répertoriée comme galaxie depuis 1923 et ça c'est grâce à l'astronome Edwin Hubble et son étude des céphéides.
Les céphéides se présentent un peu comme des phares qui jalonneraient des terres encore inconnues et aideraient l'explorateur à trouver son chemin. Tous ces caractères des céphéides, variabilité, type différent suivant les populations stellaires, sont la marque commune de phénomènes profonds. Ainsi, l'éclat de l'étoile W Virginis, qui est une céphéide de période 16 jours, exemplaire caractéristique des céphéides de la population 2, ne passe pas par un maximum aigu, mais au contraire possède un méplat qui dure plusieurs jours. Ces étoiles, comme les céphéides des amas, sont caractéristiques de la population 2. Or, on les observe dans les autres galaxies, au-delà de notre système galactique. Elles nous donnent ainsi des informations précieuses sur la constitution des autres galaxies et leur évolution. Ainsi, les céphéides se présentent un peu comme des phares, qui jalonneraient des terres encore inconnues, et aiderait l'explorateur à trouver son chemin.
Voilà un extrait de l'heure de culture française diffusée sur la RDF en 1952. Benoît Famé, une réaction à l'écoute de cette archive et sur l'histoire de la découverte des galaxies.
Oui, alors donc les céphéides, comme ça a été dit dans cet extrait, sont ce qu'on appelle des chandelles standards. C'est-à-dire qu'en en observant leur variabilité, on peut déterminer leur luminosité et ainsi déterminer leur distance. Et c'est en observant une céphéide dans la galaxie d'Andromède que Edwin Hubble, en 1923, me semble-t-il, a découvert que la galaxie d'Andromède, ce qu'on appelait à l'époque la nébuleuse d'Andromède, était en fait une autre galaxie comme la Voie lactée, située à 2,5 millions d'années-lumière.
Voilà, ces céphéides qui étaient beaucoup trop éloignées pour faire partie de notre Voie lactée. François Hammer, cette galaxie d'Andromède, on l'a découverte quand même bien avant l'invention des lunettes et des télescopes.
Absolument, ça a été découvert en fait par un astronome perse au Moyen-Âge en fait. Et en fait, c'est comme vous l'avez très bien fait remarquer, c'est une galaxie qu'on peut voir à l'œil nu. Alors la grande question, et c'est vraiment cette question de mesure des distances, en particulier avec les étoiles céphéides, c'est que au début des années 20, en 1920, il y a eu un grand débat à savoir si les nébuleuses que l'on voyait dans le ciel faisaient partie de notre galaxie ou non. Effectivement, ce grand débat a été conclu grâce à Andromède, grâce en particulier aux travaux d'Henrietta Leavitt, qui est une astronome américaine, hein, qui a découvert effectivement la nature des céphéides, les céphéides permettant de mesurer la luminosité absolue des objets, comme on peut mesurer la luminosité relative, on en déduit la distance. Et donc ça a été un coup de maître de vérifier que la galaxie d'Andromède n'est pas une nébuleuse à l'intérieur d'une galaxie, mais une galaxie bien plus lointaine que le bord de notre propre galaxie.
Et on verra tout au long de cette émission comment vous poursuivez, chacun d'entre vous, cette étude de la galaxie d'Andromède. Mais d'abord, peut-être, Benoît Famé, comment, dans le bestiaire cosmique, depuis, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de types différents de galaxies. Elles sont de différents ordres. On a les galaxies elliptiques, par exemple.
Tout à fait. Donc, on s'est rendu compte depuis l'époque d'Eddie Nebel, donc depuis seulement une centaine d'années, on sait que les nébuleuses sont en fait des univers îles comme la Voie lactée. D'autres galaxies comme la Voie lactée situées à de grandes distances dans l'univers. Et il existe toute une série de types morphologiques de galaxies, des galaxies à disques qui peuvent être spirales barrées. Il existe des galaxies elliptiques qui sont généralement plus massives, mais il existe également des galaxies elliptiques plus petites, des galaxies elliptiques naines qui peuvent être compactes. Donc il y a effectivement un grand bestiaire de galaxies dans l'univers, et il existe des milliards de galaxies dans l'univers, chacune comportant de quelques centaines de millions à quelques centaines de milliards d'étoiles, comme la Voie lactée et Andromède.
François Hammer.
Oui, tout à fait, je souscris parfaitement à ce que vient de dire Benoît, juste pour préciser peut-être un tout petit peu, on a réussi en fait pour les galaxies proches de nous à déterminer ce qu'on appelle une séquence morphologique. Alors cette séquence morphologique s'appelle d'ailleurs séquence morphologique de Hubble, quoique elle avait été découverte avant par l'astronome britannique Reynolds. Et c'est une séquence qui est assez formidable parce que on arrive à interpréter en fait l'ensemble des galaxies par un simple rapport qui est le rapport entre le bulbe, c'est-à-dire le bulbe, c'est vraiment la région centrale de la galaxie dans laquelle les étoiles ont des orbites assez aléatoires. En fait, on appelle ça des objets qui sont supportés par la dispersion. Et puis les disques des galaxies qui sont en fait des gigantesques disques dans lesquels les étoiles sont en rotation. Par exemple, notre Soleil est en rotation autour du centre de la Voie lactée, il fait partie du disque, il va à une vitesse de 240 km par seconde, mais il met quand même 250 millions d'années pour faire un tour.
Voilà comment chaque étoile tourne en rond autour du noyau. Benoît Famé, vous souhaitiez rebondir également.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette séquence morphologique de galaxies, on a tendance à appeler de type tardif les galaxies à disque et de type précoce les galaxies elliptiques. Et cela vient d'une mauvaise conception à l'époque du fait que les galaxies les plus massives, elliptiques, se formaient de façon monolithique en premier et que plus tard on arrivait à former des galaxies à disques. Or, on sait aujourd'hui que les galaxies elliptiques sont plutôt le résultat de fusions de grandes galaxies à disques qui ont des fusions majeures qui vont parfois pouvoir donner des galaxies qu'on appelle lenticulaires et parfois des galaxies de type elliptique. Et on reviendra, j'imagine, sur ce concept un peu plus tard dans l'émission.
Alors, maintenant, tout de suite, quelles sont les caractéristiques morphologiques d'Andromède?
Alors, Andromède est une galaxie à disque, tout comme la Voie lactée. Elle possède une barre centrale qui fait à peu près 12 000 années-lumière de longueur. Elle possède également des bras spiraux, typiquement deux grands bras spiraux. Elle a également un anneau très mystérieux, dont on reparlera certainement, qui est situé à peu près à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Mais donc c'est une galaxie spirale barrée, tout comme la Voie lactée. Et en de multiples aspects, on a toujours considéré que c'était un peu la jumelle de la Voie lactée, même si, en termes de masse stellaire, elle est un peu plus massive. En termes de masse totale, nous en reparlons.
On reparlera en effet de la question de la masse. François Hammer, en effet, Andromède, c'est la plus grande galaxie du groupe local avec un rayon de 110 000 années-lumière. Pour la Voie lactée, on parle de 52 850 années-lumière. Quelle différence, en effet, on observe entre notre galaxie et Andromède? Comme on vient de dire, on a cru que c'était des jumelles, mais c'est plus compliqué que ça.
En fait, on a très longtemps cru que c'était des jumelles, et maintenant, on a tellement observé les deux galaxies, que ce soit la Voie lactée et que ce soit Andromède, on se rend compte, en fait, que c'est des sœurs, dans le sens où c'est bien, les deux sont bien des galaxies spirales, mais c'est des sœurs qui sont très éloignées. En fait, c'est les deux galaxies ont les propriétés les plus extrêmes. Alors, la Voie lactée, en fait, est une galaxie avec un disque, et dans ce disque, les étoiles comme notre Soleil ont des vitesses de vitesse circulaire de 240 km par seconde et pratiquement pas de vitesse perpendiculaire à cette rotation. Alors, si vous prenez une étoile exactement comparable au Soleil dans Andromède, une étoile donc âgée de 5 milliards d'années, c'est l'âge de notre Soleil, et vous le placez à la même distance que notre Soleil dans Andromède, vous allez vous apercevoir qu'il va tourner, être en rotation à la même vitesse. Mais par contre, et là ça a été la grande surprise des astronomes américains qui ont découvert ça avec le télescope du Keck, par contre leur vitesse perpendiculaire à la rotation dépasse 100 km par seconde. Donc on a ce qu'on appelle un disque épais pour Andromède qui est dominé pour les populations d'étoiles d'âge intermédiaire et vieille. Donc on a deux galaxies complètement différentes.
Benoît Famille.
Oui, pour compléter ce que dit François, donc l'agitation stellaire est beaucoup plus importante dans le disque d'Andromède. Et on dit donc, par analogie avec un gaz, que c'est un disque chaud, alors que le disque de la Voie lactée est un disque froid.
On a aussi en janvier le résultat, hein, le télescope spatial Hubble, qui a terminé une campagne d'observation qui a duré plus de 10 ans, qui a créé ainsi les observations les plus profondes de cette galaxie. On a une mosaïque extraordinaire de 2,5 milliards de pixels. Hubble a détecté environ 200 millions d'étoiles. François Hammer, on peut parler en effet des résultats aussi de ces campagnes d'observation.
En fait, je fais partie de cette collaboration et c'est un résultat formidable parce que au départ, on avait observé seulement la partie nord du disque d'Andromède et maintenant on a fait la mosaïque. C'est une véritable mosaïque. Hein. Il y a plusieurs, au total, c'est plusieurs centaines d'observations et qui correspondent en fait à l'observation de plus de 100 millions d'étoiles individuelles. Donc c'est vraiment on peut faire un voyage d'ailleurs pour les auditeurs qui seraient intéressés. Ils peuvent aller voir le site web de la NASA et on peut faire un voyage dans Andromède. En utilisant ces images.
Benoît Fabre.
Oui, tout à fait. Donc, des résultats extraordinaires obtenus avec Hubble. Un des points intéressants qui a été complété par une mission qui s'appelle la mission Gaïa de l'Agence spatiale internationale, ça a été la mesure de la vitesse transverse de la galaxie d'Andromède, qui donne des résultats qui restent contrastés, c'est-à-dire avec des erreurs systématiques qui restent assez importantes. C'est-à-dire que la valeur qui a été obtenue à partir des observations Hubble et une des valeurs obtenues à partir des données de Gaïa sont en accord. Mais si on utilise d'autres populations stellaires du disque d'Andromède pour mesurer la vitesse transverse sur le ciel, eh bien on obtient d'autres valeurs. On n'est pas tout à fait sûr. Aujourd'hui, l'erreur systématique sur cette vitesse transverse d'Andromède reste importante malgré les observations d'une qualité extraordinaire qui ont été faites à la fois par Hubble et par Gaïa.
En tout cas, ces observations de plus en plus fines de la galaxie d'Andromède, François Hammer, ça nous donne aussi des indices de son histoire évolutive. On sait, on y voit un peu plus clair par rapport aux différentes étapes de l'évolution de cette galaxie.
Oui, il faut penser que, comme c'est la galaxie, la grande galaxie la plus proche de nous, qu'elle occupe, juste le disque d'Andromède, occupe une surface qui fait 6 fois celle de la Lune. Donc c'est gigantesque, Andromède. Les astronomes, d'abord américains, l'ont observé avec le télescope spatial, c'est le projet dont vous avez parlé. Ils l'ont observé avec le télescope du Keck pour mesurer justement la vitesse des étoiles. Et puis une collaboration franco-canadienne a observé l'ensemble du halo de la galaxie d'Andromède pour découvrir, par exemple, c'est un collègue de Benoît à Strasbourg, Rodrigo Ibata, pour y découvrir un gigantesque courant stellaire qui n'a pas d'équivalent pour notre Voie lactée. Il est bien plus important que tout ce qu'il y a dans notre Voie lactée. Donc là, les propriétés d'Andromède sont spectaculaires comparées à notre Voie lactée. C'est clairement un objet qui est beaucoup plus agité. Benoît parlait de disque chaud ou de disque épais. Et effectivement, c'est pas seulement le disque, c'est l'ensemble de toutes les propriétés d'Andromède qui sont extrêmement perturbées.
Benoît Famé.
Alors on peut aussi noter en complément à ce que dit François que ce qu'on appelle le halo stellaire d'Andromède, c'est-à-dire les étoiles qui sont non pas situées dans le disque, mais situées de façon sphérique autour du disque de la Voie lactée, représente une fraction des étoiles de la galaxie beaucoup plus importante que dans la Voie lactée, ce qui peut aussi être une signature de cette vie agitée qu'a eu Andromède avant l'époque actuelle.
C'est ça, François Hammer, c'est que l'histoire de notre Voie lactée est bien plus calme que celle d'Andromède.
Tout à fait. En fait, notre Voie lactée, on a pu étudier grâce à Gaïa, que mentionnait Benoît. Gaïa a permis de montrer quand est-ce qu'a eu lieu la dernière grande collision qui a permis la formation de la Voie lactée sous sa forme actuelle. C'est-à-dire un grand disque avec un bulbe qui est relativement de taille moyenne. En fait, cette collision s'appelle Gaïa Sausage Enceladus. Ne me demandez pas exactement l'origine des noms. Mais elle a eu lieu il y a presque 10 milliards d'années. C'est-à-dire que nous avons la chance de vivre dans une galaxie qui est quand même relativement calme. Ce qui n'est pas le cas dans ton.
Allez-y.
je peux ajouter un petit complément, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François. Cela étant dit, le disque de la Voie lactée est quelque peu perturbé, c'est-à-dire qu'on a découvert aussi avec les données de la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne que le disque de la Voie lactée était perturbé verticalement, et on a attribué cette perturbation verticale du disque, que ce soit localement autour du Soleil et encore plus dans les parties externes, à une interaction avec une galaxie qu'on appelle la galaxie naine du Sagittaire, qui est située aujourd'hui de l'autre côté du centre galactique, à peu près à 30 000 années-lumière de l'autre côté du centre galactique, et qui est une galaxie qui fait quelques centaines de millions de masses solaires, mais qui dans le passé avait peut-être une masse beaucoup plus importante et qui a pu perturber le disque de la Voie lactée. Je rajouterais que en outre, une galaxie encore plus massive, qu'on appelle le Grand Nuage de Magellan, que tout le monde connaît, semble être en train d'arriver à toute vitesse sur la Voie lactée, avec une masse de plus de 100 milliards de fois la masse du Soleil, et donc une interaction assez importante avec le Grand Nuage de Magellan pourrait être en train de se produire, et être en train en fait de faire bouger le disque de la galaxie au centre de son halo.
Alors, quelles seront les interactions futures entre Andromède et notre Voie lactée? Quel est donc son passé, son présent, son futur, et comment s'y prend-on pour mesurer sa masse? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec François Hammer et Benoît Famy, nous parlons de la galaxie d'Andromède. Nous venons de parler de cette galaxie, de la comparer également avec notre galaxie, la Voie lactée, qui sont toutes les deux des galaxies spirales barrées. On vient de parler de sa structure, et maintenant parlons de votre étude, François Hammer. Depuis le début des années 2000, la masse de la galaxie d'Andromède était estimée à près de 1200 milliards de masses solaires. Mais en 2018, vous publiez une étude et vous développez un nouveau modèle qui estime sa masse à seulement 825 milliards de masses solaires. Et là, dans astronomie et astrophysique, vous obtenez une masse de 450 milliards de masses solaires en 2025. François, mais comment ça s'explique, cet historique, ce débat autour de cette question de la masse?
Oui, tout à fait. C'est même important d'y répondre pour le public, pour que on comprenne bien comment la recherche fonctionne. En fait, en 2018, on s'était vraiment intéressé à toutes les grandes découvertes qui ont pu être faites dans Andromède. Je vous ai parlé des équipes du KEV, je vous ai parlé des équipes du télescope spatial et de l'équipe, en fait, du CFHT, du grand télescope franco-canadien qui est à Hawaï. Et là, notre but était de reproduire la totalité des observations qui avaient été faites sur cette galaxie, y compris en particulier ce fameux anneau dont a parlé Benoît à un moment donné, qui est en plus une propriété assez extraordinaire, c'est qu'il est fixe. Normalement, si vous avez une petite collision, vous attendez, c'est à peu près la même chose que ce que vous faites quand vous jetez une pierre dans de l'eau. Hein, vous allez avoir un anneau, mais cet anneau va s'expandre. Par contre, quand vous avez une fusion majeure, c'est pas du tout ça qui se passe. En fait, vous avez une interaction entre... Vous allez fabriquer d'une part une barre, et cette barre va fabriquer ce fameux anneau. Et cet anneau va rester statique à cause de l'effet de la barre. Donc en fait, ce modèle nous a pris 3 ans, à 3 personnes, plein temps, et on a travaillé sur 500 modèles différents pour essayer de reproduire toutes les structures d'Andromède. Et ça a été un succès quand même assez important, parce que maintenant ce modèle est ce qu'on appelle un modèle surcontraint. Et ce modèle permet en fait même de prédire des observations qui ont été faites ultérieurement. En particulier le fait que ce fameux gigantesque courant stellaire est le résultat d'une superposition de différentes structures. À l'époque, en 2018, et j'insiste beaucoup là-dessus, en 2018, notre but n'était que de reproduire reproduire ces propriétés. Donc la masse qu'on a utilisée à cette époque-là était la masse la plus récente estimée, et on n'a pas essayé à ce moment-là d'estimer la masse d'Andromède. Et c'est ce qu'on a fait bien plus récemment, donc en 2025, en utilisant ces modèles.
Alors donc en effet, vous obtenez ce modèle prédictif en 2018. Là, en 2025, François Hamer, pour calculer la masse d'Andromède, on n'a qu'une seule méthode d'estimation, c'est ça, et c'est celle que vous avez développée, une méthode basée sur la courbe de rotation. En quoi ça consiste ?
Alors en fait, les courbes de rotation ont un avantage assez considérable par rapport à toutes les autres méthodes d'estimation, parce qu'elles sont basées sur une courbe de rotation, c'est rien d'autre que la vitesse circulaire en fonction du rayon. Et effectivement, on utilise donc des étoiles ou du gaz, dans le cas d'Andromède, il s'agit de gaz d'hydrogène neutre, et ce gaz, effectivement, est en rotation autour du centre d'Andromède, et cette rotation, en fait, est le système le plus à l'équilibre que vous pouvez imaginer. C'est la même chose pour les galaxies, pour les étoiles autour d'une galaxie qu'on a étudiée avec Gaïa. Et là, la méthode, cette fois, est de vraiment considérer l'histoire d'Andromède. Parce que pour mesurer la masse d'une galaxie, il faut connaître son histoire. Et le résultat le plus marquant de notre modèle, en fait, est que Andromède a subi une gigantesque collision d'un rapport typiquement 4 entre la masse des deux galaxies qui sont rentrées en collision. Et du coup, évidemment, comme c'est une collision qui a eu lieu il y a seulement 2,5 milliards d'années, il faut penser que 2,5 milliards d'années, la Terre existait déjà, ça a beaucoup perturbé Andromède et ça a beaucoup perturbé toutes les méthodes utilisées pour mesurer la masse.
Cette collision gigantesque que vous décrivez, qui a eu lieu donc il y a 2,5 milliards d'années, ça fait partie aussi des choses qui permet d'expliquer l'agitation actuelle des étoiles d'Andromède, donc que vous évoquiez à l'instant.
Absolument. En fait, ça explique la totalité des propriétés telles qu'elles ont été observées. C'est pour ça que ça nous a pris 3 ans à 3 chercheurs, hein, dont Yan Bingyang, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que les objets qui vont se retrouver au-delà d'un certain rayon n'auront même plus le temps de faire une orbite depuis que la collision a eu lieu. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans un problème qui est fondamental en physique, le problème de l'équilibre dynamique. Et on a vérifié effectivement cela en faisant des simulations hydrodynamiques, on a vérifié ce qui était vrai pour les étoiles et vrai aussi pour le gaz, et qu'en fait, les systèmes qui n'ont pas eu le temps de faire plus de 3 ou 4 orbites sont manifestement pas à l'équilibre. Donc vous ne pouvez pas les utiliser pour déterminer la masse.
Benoît Famé.
Oui, ben alors tout d'abord, je voudrais dire que le travail de François est tout à fait remarquable, dans le sens où c'est une belle illustration de l'argument du rasoir d'Occam en science, dans le sens où avec cette collision majeure, ce modèle de collision majeure, François et son équipe ont réussi à expliquer un nombre tout à fait impressionnant de caractéristiques de la galaxie d'Andromède. J'entends quand François dit que le modèle est surcontraint, je serais un tout petit peu plus prudent dans le sens où effectivement c'est un modèle qui explique un grand nombre de choses avec très peu d'éléments, et c'est tout à fait impressionnant et remarquable. Cela étant dit, on pourrait imaginer qu'il y ait en fait plusieurs éléments séparés qui viennent expliquer les différentes observations que François a mentionnées, le courant stellaire géant, l'anneau. En réalité, ce qui est remarquable dans le modèle de François, c'est qu'avec un seul scénario, il explique toutes ces observations avec un scénario donné. Mais je ne suis pas complètement... Enfin, j'aurais tendance à rester prudent sur le fait que certaines de ces observations pourraient être dues à autre chose. Et donc, en fait, c'était tout à fait l'hypothèse standard quant au courant stellaire géant dont François a parlé tout à l'heure. L'hypothèse standard avant le modèle de François était que c'était le résultat plutôt d'une fusion mineure que d'une fusion majeure. Mais évidemment, cela ne permet pas d'expliquer le disque chaud d'Andromède et le fait que toutes les étoiles qui ont tendance à être âgées de plus de 2 à 3 milliards d'années, qui est le moment où François nous dit que cette collision a eu lieu, sont effectivement très très chaudes, alors qu'il y a eu un pic de formation stellaire aussi il y a 2 ou 3 milliards d'années. Cela étant dit, un certain nombre d'observations, donc notamment ce disque à 30 000 années-lumière, ce disque statique dont nous a parlé François, il nous a bien dit qu'il était dû à la barre, mais on sait que dans une galaxie comme la Voie lactée, il y a également une barre et qu'il n'y a pas eu besoin, il n'y a pas eu nécessairement besoin d'une fusion majeure récente pour obtenir une barre. Donc on pourrait également obtenir cet anneau séparément via une barre, ce qui n'expliquerait pas le courant stellaire géant qui lui pourrait être dû à autre chose, etc. etc. Donc je pense que dans le contexte des hypothèses qu'a fait François, le modèle est effectivement surcontraint. Si on ouvre complètement l'espace des paramètres à des modèles qui, pour causes de rasoir d'Occam peuvent être défavorisées, mais cela, enfin, la nature n'obéit pas toujours à cette hypothèse du rasoir d'Occam.
Cette hypothèse du rasoir d'Occam, comment une explication la plus simple et la plus probable pour la Voie lactée, Benoît Famay, on a également révisé à la baisse sa masse grâce aux données de Gaïa. On a différentes méthodes également pour estimer la masse de notre propre galaxie.
Exactement, et c'est tout le problème, et c'est pourquoi j'ai tendance en général à rester prudent, c'est que dans une galaxie comme la Voie lactée, qu'on connaît encore mieux que la galaxie d'Andromède, on a pu, et donc François et son équipe ont également travaillé sur cette question, on a pu mesurer la courbe de rotation de la Voie lactée à partir des vitesses stellaires. Contrairement au cas d'Andromède où on parlait de la vitesse de rotation du gaz, ici on a pu mesurer la courbe de rotation de la Voie lactée à partir des vitesses stellaires, et l'estimation donne une masse beaucoup plus faible que ce à quoi on s'attendait, et ce à quoi on s'attend d'ailleurs dans le cadre du modèle standard de la cosmologie. On y reviendra peut-être après. En réalité, dans la Voie lactée, on a la chance d'avoir des observations extrêmement précises sur la position et la vitesse des étoiles, notamment grâce à cette mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle la mission Gaïa, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le cadre de cette émission. Et les données sont tellement précises dans la Voie lactée qu'on a pu utiliser une autre méthode très fidèle, je dirais, pour déterminer la masse de notre Voie lactée, qui est une méthode basée sur les courants stellaires. Alors, on a déjà parlé du courant stellaire géant dans la galaxie d'Andromède. Ici, il s'agit de courants stellaires beaucoup plus petits, qui sont le résultat de la destruction par effet de marée d'amas globulaires qui orbitent autour de notre Voie lactée. Et donc, tout comme dans le cas de la Terre, où l'attraction gravitationnelle différentielle de la Lune et du Soleil cause des bourrelets qui donnent les marées sur Terre, eh bien, on a exactement le même effet qui se passe dans ces amas globulaires, sauf que à partir d'une certaine distance au centre de l'amas globulaire, les étoiles sont déchirées, et puis les amas globulaires peuvent être complètement déchirés par ces effets de marée, et en fait, ils vont laisser à la place de l'amas globulaire initial une traînée sur le ciel, qu'on appelle un courant stellaire. Et il se fait que pour les amas globulaires, dont les progéniteurs ne font que quelques dizaines d'années-lumière parfois de rayons, ces courants stellaires sont en fait une trace de l'orbite des amas globulaires.
Ça nous donne une trajectoire.
Ça nous donne une trajectoire. C'est assez exceptionnel en astrophysique, puisqu'en général, on a toujours l'habitude de n'observer que des instantanés. Les temps caractéristiques en astrophysique sont extrêmement longs. Donc en général, on voit la galaxie Andromède, la Voie lactée, telle qu'elle est aujourd'hui. On observe des positions, on mesure des vitesses, mais on n'a pas accès à l'évolution temporelle. Avec ces courants stellaires, on a en fait une signature de la trajectoire des progéniteurs. Et donc en mesurant la position et la vitesse des étoiles au sein de ces courants stellaires, on peut mesurer l'accélération de ces progéniteurs, de ces amas globulaires. Or, l'accélération nous donne directement accès à ce qu'on appelle le potentiel gravitationnel. En fait, l'accélération gravitationnelle, c'est la force gravitationnelle qui s'exerce sur ces objets. Et à partir, évidemment, de cette accélération gravitationnelle, on peut déterminer la masse de la Voie lactée et on obtient quelque chose de beaucoup plus élevé. Quand je dis beaucoup plus élevé, c'est 5 fois plus élevé que ce qu'on obtient à partir de la courbe de rotation. Et on n'a pas l'explication.
Alors, quelle explication aussi vous avez, François Hammer, pour obtenir une masse stellaire de 450 milliards pour la galaxie d'Andromède ?
Alors déjà, je me permettrai quand même de répondre à Benoît sur un point vraiment très important pour Andromède, parce qu'en fait, le très grand courant stellaire qui est observé dans Andromède a été réobservé par un gigantesque survey qui s'appelle DESI, et qui a montré en fait qu'il était vraiment la superposition de plusieurs structures qui ne peut être que le résultat d'une grande fusion et pas d'une fusion avec une petite galaxie. Ça, c'est pour dire vraiment qu'on a répondu à toutes les interrogations justement qu'on pouvait se poser sur la validité de ce modèle. Pour revenir aussi sur la Voie lactée, et ça c'est très important, les courants stellaires, c'est une énigme qui est assez intéressante, à savoir pourquoi les courants stellaires donnent une masse de la Voie lactée, comme a dit Benoît, qui est 5 fois plus grande que ce qu'on trouve avec la simple rotation des étoiles. Normalement, c'est effectivement impossible si les systèmes sont dynamiquement au repos, c'est-à-dire en équilibre. Donc, il y a une des questions qui se pose, et Benoît en a très bien parlé en disant que ces courants stellaires qu'on utilise pour mesurer la masse de la Voie lactée sont le résultat d'une destruction très violente des amas globulaires. Mais qui dit destruction très violente dit changement du niveau d'énergie dans ces objets. Donc la question qui se pose pour ces objets, c'est de savoir s'ils sont vraiment à l'équilibre. Donc ça, c'est un travail qu'on fait actuellement avec une étudiante en Master 2, en deuxième année de master, qui s'appelle Mingyu Chang, et on aura les résultats normalement assez rapidement. Donc, vous voyez, le débat continue. Hein, on est encore dans ce débat.
Ouais, vous avez le débat en direct.
Très bien. Et François Meur, moi, je remets cette discussion au centre de vos résultats. 450 milliards de masse solaire pour Andromède. Quelle réaction de votre côté?
Alors, en fait, ce qu'on a fait, ça a été quelque chose d'extrêmement simple. On a regardé l'ensemble de nos modèles. Je vous répète, on a fait 500 modèles pour essayer de reproduire la galaxie Andromède. On en a sélectionné un certain nombre d'entre eux. C'est 6 modèles, en fait, qui reproduisent et qui représentent une famille de modèles, en fait. Et on a comparé, ça à la rotation, à la courbe de rotation d'Andromède. Et c'est un travail qu'on a fait avec Laurent Chemin, qui était un des responsables, justement, une des personnes qui a fait une des plus belles courbes de rotation d'Andromède. Il a travaillé avec Claude Carignan, et on a vraiment étudié, essayé de reproduire non pas une courbe de rotation qui serait juste une croissance à partir du centre et puis quelque chose de relativement plat au bord. Non, ce qu'on a voulu faire, c'est reproduire tous les détails dans cette courbe de rotation. Et alors, il y a un premier détail qui est formidable dans la courbe de rotation d'Andromède, c'est que si vous regardez typiquement à une distance de l'ordre de 47 000 années-lumière, vous allez trouver une gigantesque cloche, une forme de cloche dans cette courbe de rotation. Alors, il y a des personnes qui ont négligé ça, mais il ne faut absolument pas le négliger. Cette cloche, c'est la signature du disque d'Andromède. Et évidemment, on l'a parfaitement reproduite. Et ensuite, on a continué effectivement à regarder dans les régions les plus externes, et on s'est aperçu que la courbe de rotation décroissait après cette cloche, et ensuite remontait vers le bord. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile en dynamique. Il est très difficile d'avoir un système dans lequel vous allez avoir une masse plus grande au bord qu'au centre. Parce que ce n'est pas stable. C'est un peu un problème des haltères. Si vous vous amusez à faire tourner les haltères très vite, ça va être immédiatement en déséquilibre. Et on s'est rendu compte, en fait, que comme la collision d'Andromède était récente, 2,5 milliards d'années, il y avait encore du matériel qui vient de Kudmaré, qui continue à nourrir le disque d'Andromède. Et ce matériel choque Andromède, en fait. C'est-à-dire qu'Andromède est vraiment très perturbé, y compris sur sa partie relativement interne. Hein, c'est le bord du disque dont on est en train de parler. Et on a reproduit tout ça. Et la seule façon de reproduire tout ça, c'est de trouver une masse plus faible pour Andromède, parce que nos autres modèles surestimaient la masse d'un facteur 2.
Et voilà, la galaxie d'Andromède est moins massive que prévu. Qu'est-ce que ça change pour la matière noire? Restez à l'écoute. Sur France Culture, car nous parlons de la galaxie d'Andromède et du calcul de sa masse. On en parle avec nos deux invités du jour, François Hammer, astronome du laboratoire LIRA de l'Observatoire de Paris, et Benoît Famé, astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Si l'estimation de la masse d'Andromède a pu être affinée et révisée à la baisse, c'est par l'effort de calcul fourni par une machine qui agrège un nombre incommensurable de données. Pour le reportage du jour, jour, vous êtes allé visiter ce supercalculateur à l'Observatoire de Paris à Meudon, au sein du GEPI. Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, Yanbin Yang, ingénieur de recherche, a contribué à ce travail à partir d'un modèle dynamique qui simule et reproduit la dynamique et un maximum d'observations de la barre centrale au courant stellaire du halo. Cet exercice a été permis par la puissance de calcul de MESO-PSL, un ensemble d'ordinateurs coordonnés en parallèle et qui turbine en continu pour compulser des millions de données, images, positions, vitesses des corps, ainsi que la courbe de rotation d'Andromède. C'est de cette manière que son équipe a pu déduire sa masse totale à 450 milliards de masses solaires, soulignant une déficience de matière sombre dans sa structure.
Ce qu'on a monté, effectivement, il y a des masses manquantes. Par rapport à ce qu'on sait avant, par exemple, on a dit 16% de masse dans la galaxie, c'est matière sombre. Mais cette fois, on a révisé la fraction. On a dit, bon, c'est pas assez... massif comme ça, c'est un peu petit, mais quand même, il est dit qu'il manque des masses. Plus ou moins deux tiers de masse qui est invisible. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce que la matière exactement. Ça, c'est...
Ça pourrait être de la matière noire comme ça pourrait être autre chose.
Autre chose, c'est-à-dire...
C'est la matière baryonique
Ça peut-être, parce qu'on ne connaît pas tous les matériaux baryoniques, parce qu'on observe des étoiles, on observe des gaz froids, mais il y a des gaz chauds, c'est très difficile à détecter.
Et
le plasma, voilà, c'est le plasma, c'est le gaz chaud. Donc c'est exactement des choses où il faut y aller pour mesure, pour savoir les quantités, la densité kinématique de toutes les propriétés. Pour l'instant, c'est des endroits et c'est des matériaux qu'on ne connaît pas beaucoup, dans tous les paraboles, les gaz froids et les étoiles.
Andromède, c'est un objet que vous étudiez depuis vraiment très longtemps.
Presque combien de temps ? 15 ans. D'accord. On commençait à 2010 pour le premier modeling, première simulation de ce objet. Donc on a simulé la galaxie avec 24 millions de particules. Mmh. Donc dans ce modèle, on récupère toutes les propriétés, morphologie, kinématique, et formation stellaire, histoire, etc.
Structure et évolution du coup de la galaxie. Donc c'est vraiment ça l'objectif de ce modèle, c'est de caractériser et de prédire un peu l'évolution de cette galaxie.
Voilà,
en
de recouvrir toutes les histoires de révolution de ces galaxies. Après, on peut utiliser ce modèle pour prédire quelque chose, pour comparer avec l'observation dans le futur, etc.
Quelles sont les données qu'on utilise pour élaborer ces modèles? Est-ce que ce sont des images? Est-ce que ce sont des positions?
On utilise toutes les données. Toutes les données de spectroscopie, la vitesse radiale des étoiles, imagerie, de radio, de optical band. Toutes les données sont publiées.
Open.
Oui, sont publiées. Donc on peut récupérer à partir de Internet ou à contact des collègues dans la collaboration. On peut récupérer toutes les infos. Sincèrement.
Donc, MESO-PSL, c'est le supercalculateur qui est
voilà,
dans ce bâtiment.
Ah oui. MESO-PSL, c'est la machine dans le bâtiment, dans le petit conteneur. Maintenant, on va y aller chercher nos collègues qui
supervisent ce supercalculateur.
Voilà.
Brice Lamiré, je suis administrateur système et réseau et je m'occupe des serveurs de calcul à l'Observatoire.
Moi, je m'appelle Aurélia Marchand et je fais le support informatique pour les chercheurs à l'Observatoire.
On y va ?
Il faut des ordinateurs où le calcul peut être réparti sur plusieurs ordinateurs. Donc là, on a des machines où il y a 96 processeurs sur un même ordinateur. Donc les chercheurs peuvent utiliser comme s'ils utilisaient 96 machines en même temps, voire plusieurs en même temps. Donc ils peuvent multiplier en parallèle. Voilà.
C'est énorme.
Donc voilà, ils peuvent faire tous les calculs en parallèle en fait. Et ils ont des espaces de stockage aussi dédiés qui font plusieurs pétaoctets en fait pour pouvoir avoir des masses de données à calculer en fait. sur plusieurs ordinateurs en même temps.
Ça se présente un peu comme des grandes armoires finalement.
Oui, c'est ça. Allez-y.
Ça turbine.
Oui. Donc là, il y a une allée chaude et on a une allée froide. Donc là, on a 16 racks qui contiennent des serveurs. Pour mes OPSL, ça représente 7000 cœurs.
En fait, en termes de grandeur vraiment de données, combien ça pèse de devoir compiler, on m'avait dit 24 millions de particules. Alors ce qu'on appelle particule, c'est un élément, donc c'est une image, c'est quoi?
C'est la plus petite élément en calcul qui portait l'information de masse, vitesse, de l'époque de formation des étoiles ou les métallicité de le petit morceau de galaxie. Ça représente un petit morceau de galaxie, ce n'est pas vrai, mais on peut imaginer. Le petit élément peut être encore petit, y arriver de formation de niveaux étoiles. Dans ce cas-là, il faut grande quantité de particules.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. François Hammer, une réaction à ce qu'on vient d'écouter et peut-être même une réaction sur le tout début de ce reportage sur la question, la fameuse question de la matière noire.
Alors déjà pour remercier les ingénieurs et chercheurs aussi qui travaillent dans ces centres de calcul parce que c'est absolument fondamental pour les astrophysiciens de disposer de ce genre d'outils. L'autre chose, vous nous aviez demandé effectivement si on pouvait un peu parler avec les mains et parler d'images, mais je pourrais proposer aux auditeurs de regarder sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de Paris parce qu'ils y trouveront les vidéos de la formation de la galaxie Andromède après collision majeure. Il suffit qu'ils tapent ça et qu'ils aillent chercher les vidéos les plus populaires parce que c'est très regardé. Et c'est assez joli, je vous le conseille vraiment, en particulier justement sur la question, par exemple, de la formation du grand courant stellaire dont on a parlé.
On poste également cette vidéo dans nos ressources complémentaires sur notre fil Blue Sky. Je vous laisse poursuivre, François Hammer.
Oui, tout à fait. Et l'autre aspect, effectivement, c'est cette fois-là une question qui est vraiment très importante pour la recherche, c'est cette question de matière sombre. Alors, je parle de matière sombre, mais non pas de matière noire, parce que matière noire, c'est une très mauvaise traduction de dark matter. Hein. Matière noire, ça veut dire black matter. C'est très important, mais c'est un autre sujet. Pour revenir dessus, on a effectivement un modèle standard qui a eu un succès phénoménal, qui a été fondé dans les années 70 par Jim Peebles, qui a reçu le prix Nobel et qui le méritait quelque peu, c'est moins qu'on puisse dire, et qui a permis de déterminer la métrique de l'univers. C'est quelque chose de fantastique. Maintenant, aujourd'hui, notre rôle à nous, c'est de nous reporter sur tout ce qui a été fait depuis ces années-là et d'essayer de vérifier si les quantités qui ont été admises dans le passé sont bien les bonnes. Et ce qu'on fait, en fait, nous, c'est quelque chose de très, très simple, en fait. On va regarder les objets pour lesquels on a le plus d'observations, les objets les plus proches de nous, bien sûr, et on va essayer de les scrutiniser, de scruter absolument tout ce qui se passe dedans pour essayer d'avoir des valeurs beaucoup plus précises. Alors, par exemple, que ce soit pour la Voie lactée comme pour Andromède, on trouve, il nous manque de la masse, mais il en manque beaucoup moins. Donc ça a deux aspects. Un premier aspect, que ça corrobore l'existence d'une matière supplémentaire, reste à savoir laquelle. C'est toujours un grand débat et quelque chose d'inconnu depuis les années 70. On n'a toujours pas trouvé le responsable de cette masse manquante. Et le fait qu'on en trouve moins, évidemment, a des répercussions énormes en physique. Parce que, il faut expliquer pourquoi les galaxies qu'on regarde le plus semblent, pour l'instant en tout cas, c'est le cas de deux galaxies, semblent avoir plutôt moins de matière sombre.
On fait donc face, Benoît Famaillé, à un manque de masse manquante.
Tout à fait. Alors pour revenir sur le modèle standard de la cosmologie que François a très bien décrit juste avant, c'est un modèle qui est vraiment calibré sur l'univers à grande échelle. Donc les observables sur lesquels on va calibrer ce modèle standard de la cosmologie, ça va typiquement être le fond diffus cosmologique, cette première lumière de l'univers qui nous parvient de 380 000 ans après le Big Bang, la structure de l'univers à grande échelle, et les succès de ce modèle standard de la cosmologie sont absolument remarquables, malgré quelques petites tensions. Je pense que vous avez eu une émission il y a quelques semaines, vous avez parlé des tensions sur l'énergie noire notamment. Toujours est-il que c'est vraiment un modèle qui porte bien son nom, ce modèle standard de la cosmologie qui explique parfaitement, ou presque parfaitement, les observations à grande échelle. Ces observations à grande échelle, elles sont dans un régime qu'on appelle le régime linéaire des perturbations, c'est-à-dire que les perturbations à la densité moyenne de l'univers sont très petites dans l'univers, soit à grande échelle, soit dans l'univers primordial, comme dans le fond diffus cosmologique. Or, les galaxies, ce sont des contrastes de densité énormes avec la densité moyenne de l'univers. C'est ce qu'on appelle le régime non linéaire de formation des structures. Et là, on est obligé de se reposer sur des simulations pour comprendre comment ces galaxies se forment dans le cadre du modèle standard de la cosmologie. Et ce qu'il faut dire, c'est que les galaxies qui sont formées dans les simulations qui sont faites, contrairement aux simulations de François, hein, qui sont pas des simulations qui sont faites dans le cadre du modèle standard de la cosmologie, mais qui sont des simulations qui se basent sur certaines hypothèses venant du modèle standard de la cosmologie, mais qui ne sont pas faites dans ce cadre-là ab initio, ces simulations de formation des galaxies dans un cadre ab initio, eh bien, elles donnent des quantités de matière noire dans des galaxies comme la galaxie d'Andromède ou comme la Voie lactée, qui sont plus importantes même que les valeurs classiques pré-étude de François. C'est-à-dire que dans une galaxie comme Andromède, la masse typique, elle est quasiment de 10 exposant 13 masses solaires. Sachant que la masse classique d'Andromède était plutôt de l'ordre de 1,5 fois 10 exposant 12, 1,4 fois 10 exposant 12. Maintenant, François nous dit 4,5 fois 10 exposant 11. Dans la galaxie d'Andromède du modèle de François, on a quelque chose de l'ordre de 60% de matière noire. Or, la matière noire dans l'univers, c'est censé être 85% de la masse. C'est très difficile de descendre en dessous de 85% de matière noire dans le cadre du modèle standard de la cosmologie. Donc ça pose, si ces résultats sont confirmés, une véritable énigme, même peut-être sur la nature fondamentale de la matière noire. Est-ce qu'on a, ce qu'on en a supposé, c'est-à-dire qu'elle peut se comporter d'une certaine manière aux grandes échelles, et se comporter effectivement comme dans le modèle standard de la cosmologie aux grandes échelles, mais qui sait s'il n'a pas des propriétés un peu plus subtiles à l'échelle des galaxies.
Ça veut dire qu'en fait, vos résultats, François Meur, cette révision de la masse d'Andromède, une révision encore à la baisse, ça ne fait qu'aggraver un problème qui existait déjà précédemment.
Oui, tout à fait, en fait. Il faut pas. Il y a un problème, une question de méthode, et je voudrais vraiment en parler aux auditeurs et en particulier aux plus jeunes d'entre eux, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. D'abord, il faut bien dénommer les choses. C'est pour ça que je voulais pas parler de matière noire, parce que c'est important pour comprendre quelque chose de bien le nommer. Mais encore beaucoup plus important, la question est de se poser comment on découvre cette fameuse matière manquante ou matière sombre. En fait, on le découvre uniquement par la dynamique des objets. Hein, on a parlé des étoiles comme le Soleil qui tourne autour du centre de la Voie lactée. On a parlé des effets des collisions entre galaxies qui perturbent l'équilibre. Donc on parle en fait d'essayer de comprendre un système dynamique. Alors une galaxie, c'est un système dynamique très complexe, certainement. Et là, l'idée de base, c'est d'essayer de penser un peu différemment, c'est-à-dire de ne pas chercher absolument à partir de simulations cosmologiques qu'a très bien décrit Benoît, qui sont très très bien décrites par Benoît, d'essayer de fixer cette quantité de masse, mais plutôt d'essayer de voir quelle est la quantité de masse manquante minimale qui est capable de reproduire un système dynamique. Et ça, c'est une question de méthodologie, et je pense que cette méthodologie aura pas mal d'avenir. Et c'est à ce à quoi on s'emploie. Pour ajouter un petit point avec un étudiant en thèse, on essaye de faire la même chose qu'avec Andromède, on essaye de mettre la Voie lactée en boîte, c'est-à-dire d'essayer de reproduire la formation complète de notre Voie lactée.
Nous, on arrive à la fin de cette discussion. On a parlé de la formation d'Andromède. J'aimerais bien qu'on parle également de son futur, parce que on l'a dit, la Voie lactée est en train d'absorber la galaxie du Sagittaire. C'est une toute petite, elle est toute petite, donc il n'y aura pas d'impact. En revanche, on sait que la galaxie d'Andromède nous fonce dessus. Est-ce que cette galaxie spirale va nous percuter d'ici 3 à 4,5 milliards d'années, François Hammer? Ça, on n'a pas toutes les informations en main pour pouvoir le dire.
Alors j'aimerais citer pour ça Karine Babusio, qui est une des responsables du satellite Gaïa, qui travaille en particulier sur ce qu'on appelle les systématiques dans les observations de cette galaxie. Alors je répète, Gaïa, c'est quelque chose qui mesure les mouvements dans le ciel, alors que nous, classiquement, on a toujours accès à ce qu'on appelle la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse d'Andromède vers nous, qui est de 120 km par seconde. Le problème, c'est que les incertitudes sur les mouvements qui sont perpendiculaires à ce mouvement radial, ce mouvement dans le ciel, elles sont presque aussi grandes que la mesure de la vitesse radiale. C'est 90 km par seconde contre 120 km par seconde. Donc aujourd'hui, en fait, à partir de ce qu'on connaît de Gaïa, Andromède est beaucoup trop loin pour permettre d'avoir une précision. Donc vous pouvez avoir, s'il n'y a que la vitesse radiale, une collision dans 3,5 milliards d'années. S'il commence à y avoir un peu de vitesse perpendiculaire à cette vitesse radiale, ça peut être dans 5 milliards d'années. Ça peut être dans 10 milliards d'années, ça peut être dans 50 milliards d'années, ou ça peut ne pas avoir lieu du tout. C'est la réponse actuelle.
Benoît Famay, donc on ne sait pas si collision il y aura, mais avec des six fusions, à quoi ressemblerait la galaxie résultante? Et est-ce que d'ailleurs c'est possible de pouvoir projeter, imaginer ce qui va se passer?
Alors, donc il faut savoir qu'une collision de galaxies, ce n'est pas à proprement parler une collision. Il y a énormément de place entre les étoiles des disques galactiques pour que ceux-ci ne se rentrent pas en collision l'un dans l'autre, mais en réalité s'entrelacent et entament une espèce de danse cosmique qui va néanmoins donner lieu à des épisodes de formation stellaire dans le gaz interstellaire présent dans ces deux galaxies et qui, en fonction du paramètre d'impact, c'est-à-dire à quel point les deux galaxies vont se rencontrer de façon proche ou pas, en fonction aussi, il faut le dire, de la masse du halo de matière noire de chacune des galaxies, qui vont entamer une danse qui va durer plus ou moins longtemps pour finalement donner une galaxie qui pourrait être une galaxie elliptique ou une galaxie dite lenticulaire, c'est-à-dire avec une composante sphérique importante, mais néanmoins en gardant une composante de rotation.
Voilà pour les transformations morphologiques, mais d'ailleurs, vous venez de l'évoquer, en quoi la masse d'une galaxie joue-t-elle un rôle sur la dynamique des fusions et des collisions?
Alors, la matière noire, matière sombre pour reprendre la traduction exacte que nous a recommandé François, à laquelle je souscris, on a l'habitude de dire matière noire quand on en parle en français, donc je vais malheureusement faire cet abus de langage encore plus d'une fois. Ces halos de matière noire, s'ils sont... ont tendance à être extrêmement étendus. Ils sont typiquement plus étendus que les disques galactiques qui sont en leur sein. Lorsque deux galaxies comme la Voie lactée Andromède vont entrer en collision, les premières parties de la galaxie qui vont entrer en interaction vont être ces halos de matière noire. Si ces halos de matière noire sont effectivement très massifs, comme on a tendance à le penser dans le cadre du modèle standard de la cosmologie, mais pas dans les modèles que François a pu construire, s'ils sont extrêmement massifs, eh bien, en réalité, l'interaction entre ces deux halos de matière noire va commencer assez tôt et va ralentir leur collision par un effet qu'on appelle un effet de friction dynamique. Quand les halos de matière noire sont beaucoup moins massifs, comme c'est le cas dans le modèle de François, eh bien, cet effet va être un peu retardé dans le temps. Il y aura un effet de friction dynamique, mais plus tard. Je rajouterai que si, effectivement, les modèles de François nous tendent à montrer qu'il y a peut-être quelque chose de fondamental qui nous échappe quant à la nature de la matière noire, on pourrait imaginer des modèles de matière noire où cette friction dynamique serait moins importante qu'avec des particules de matière noire, comme on a tendance à les imaginer dans le cadre du modèle standard.
Très bien, écoutez, merci pour cette description de chorégraphie stellaire. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on quitte l'astrophysique et on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Merci à tous pour votre écoute. Maintenant, quel était le pelage des petits mammifères à l'époque des dinosaures? Réponse dans la chronique avec science.
De quelle couleur étaient les mammifères qui côtoyaient les dinosaures? Ceux qui, comme moi, font partie du fan club des dinos savent bien que l'image de gros lézards gris est en fait très loin de la réalité biologique de ces animaux. On découvre de plus en plus de fossiles exceptionnels qui nous permettent parfois de reconstituer leur patron de coloration. On sait donc s'ils avaient des bandes, des taches et autres motifs de camouflage. Ça a été surtout étudié chez les dinosaures à plumes, chez les oiseaux et même chez les ptérosaures. Vous savez, ce sont ces grands reptiles volants qui faisaient plusieurs mètres d'envergure. En revanche, on connaît beaucoup moins bien la coloration des mammifères qui vivaient à cette période. Il y a plus d'une centaine de millions d'années, et on a pourtant retrouvé des spécimens dont le pelage a été préservé. Pierre Gariot est paléontologue à l'université de Lausanne en Suisse et au laboratoire Ipanema du CNRS, et il est spécialiste de la préservation exceptionnelle des fossiles.
Il n'y avait encore eu aucune étude qui pouvait reconstituer la couleur de ces mammifères, donc nos ancêtres, au temps des dinosaures. La façon qu'ont les paléontologues de pouvoir reconstituer ces couleurs, c'est à travers la préservation de petits organites, c'est des petites structures cellulaires, c'est par exemple dans les plantes ce qu'on appelle les chloroplastes, c'est là où se passe la photosynthèse et la production d'oxygène au sein des plantes. Et on a un type de structure dans les cellules animales assez commun qui sont les mélanosomes. C'est des organites qui incluent notamment la mélanine, un pigment relativement foncé, brun, noir très souvent, et qui a la particularité d'être relativement résistant à la fossilisation, et on les trouve de plus en plus régulièrement dans certains fossiles. Alors ça a été le cas avec les dinosaures qu'on mentionnait plus tôt, certains des premiers oiseaux, ou même les ptérosaures. Ces mélanosomes sont des structures microscopiques qui font quelques microns, c'est une fraction du diamètre par exemple d'un cheveu, qu'on peut observer avec un microscope électronique.
Et on sait qu'actuellement, dans la nature, la forme de ces mélanosomes joue un rôle sur la coloration des animaux. S'ils sont sphériques, ils donneront des poils plutôt roux, tandis que s'ils ont une forme plus allongée, le pelage sera foncé, par exemple. Alors en partant de ça, les chercheurs ont produit une base de données des mélanosomes de 116 mammifères actuels. Ils ont inclus des singes, des chauves-souris, des rats ou encore des chats. Et comme ça, ils ont fabriqué un modèle informatique qui permet de prédire la couleur d'un animal grâce à la forme de ces mélanosomes. Ensuite, ils sont tout simplement allés chercher des mélanosomes d'animaux fossiles cette fois, et ils ont entré leurs caractéristiques dans le modèle informatique pour connaître la couleur de leur pelage. Ils ont fait ça sur 6 spécimens datés entre moins 160 et moins 120 millions d'années, et parmi les 6, il y en avait un qui n'avait encore jamais été décrit et que les auteurs ont baptisé Arboroaramia fuscus. C'est un petit animal d'un peu plus d'une dizaine de centimètres de long, chez lequel des parties du pelage ont été fossilisées près de la tête, de la queue et aussi entre les membres. Et ça suggère qu'il devait avoir un patagium, c'est le nom qu'on donne à la membrane de peau des écureuils volants, donc on pense que c'était un animal planeur. Alors, de quelle couleur étaient ces animaux? Eh bien, ce que révèle notre fameux modèle, et qui a ensuite été renforcé par une analyse chimique, c'est que ces 6 animaux-là avaient un pelage très uniforme et surtout très sombre.
Ces animaux sont considérés comme étant nocturnes, donc n'ont pas forcément besoin de couleurs, et en fait peut-être même pour renforcer le fait qu'ils puissent se cacher, se dissimuler dans l'environnement sombre, avoir des pigments sombres, c'est efficace. Et c'est typiquement ce qu'on voit dans de nombreux mammifères actuels, que ce soit les taupes, les souris, les rats ou encore même les chauves-souris qui sont nocturnes. Elles ont finalement le même type de mélanosomes, le même type de couleur, hein, donc on a affaire à un mode de vie très similaire à ces organismes, et c'est quelque chose qu'on pensait déjà juste à partir de leur squelette. Ce qui est assez intéressant, c'est de se poser la question pourquoi ces animaux sont pigmentés. S'ils vivent la nuit, ils n'en ont pas forcément besoin. Et ces mélanosomes et ces mélanines, elles ont plusieurs rôles. Elles sont utilisées quand on a des couleurs relativement vives pour des questions d'attirer les femelles, pour des questions de communication, mais elles ont aussi d'autres rôles, notamment de renforcement des organes ou de la peau pour les rendre plus résistantes au milieu extérieur.
Donc ces pigments pourraient être issus d'autres tissus que la peau et ne pas refléter la couleur de l'animal. Dans cette étude, néanmoins, les poils sont assez bien visibles, donc on peut raisonnablement penser que ce sont des mélanosomes qui colorent l'animal. Mais ça reste une petite limite à cette publication qu'il faudrait pouvoir éclaircir. Maintenant, il faut mener des études similaires chez d'autres mammifères de la période pour voir si eux aussi vivaient la nuit cachés des dinosaures. Et puis, on peut aussi regarder les animaux qui ont vécu après la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années pour savoir quand les mammifères commencent enfin à arborer des couleurs plus vives.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci également à toute l'équipe de la science CQFD et à Dali Yaha à la technique aujourd'hui. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.